forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Jérôme Bretagne, Daniel Riolo, Anthony Quintela, Kevin Diaz nous a rejoint. Salut Kevin.
Salut, bonsoir à tous.
Kevin Diaz, alors qui a joué. Combien d'années t'as joué aux Pays-Bas?
7.
7 ans quand même.
7 ans.
T'as joué où?
Moi j'ai joué RBC Rosendal, Cambuur Leeuwarden, Eindhoven et Fortuna Sittard. Quand même.
Quand même, ouais. Tu parles néerlandais et tout?
Nitslert.
D'accord.
Et Hoot.
Ah, mais tu peux dire n'importe quoi, de toute façon on comprend rien.
Ouais, il vient de t'insulter d'ailleurs.
Fred Hermel nous a rejoint également. Salut Fredo.
Hola chicos.
Ah, son excellence.
Comment va Fredo?
Ah bah bien.
Ouais. Tiens, yes. Juste pour vous rappeler également, cette semaine RMC vous offre des places pour la Ligue des Champions et pour le match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes mercredi face à Manchester United. Pour remporter vos places, vous restez à l'écoute d'RMC dès que vous entendrez ce signal sonore. Vous envoyez foot au 7-32-16. Dès que vous entendez ce signal, voilà. Foot au 7-32-16 pour aller voir
avec
le match.
Peut-être une chance de me croiser parce que c'est moi qui commente le match. Donc, allez-y.
Fredo, la demi-finale retour de Coupe du Roi entre Valence et le Betis vient de se terminer et ça passe pour Valence.
Ouais, c'était franchement une demi-finale qui était quand même très mal engagée puisqu'il y a 3 semaines, cette équipe de Valence s'était menée 2-0 sur la pelouse du Betis, a réussi à égaliser notamment grâce à un but de Gamero il y a 3 semaines, 2-2, et ce soir un match plutôt maîtrisé par les Valenciens dans une ambiance de folie à Mestalla qui est vraiment une vraie région de foot, hein. La Valence est une ville historique du football. Les plus anciens se souviendront de tous ces matchs de l'équipe d'Espagne qui se sont joués à Mestalla. Bon, ils n'ont toujours pas bâti leur nouveau stade, mais l'ancien il tient encore, il est un peu vétuste, mais il y a une vraie vie dans ce stade. Et victoire de Valence 1-0 avec Gamero, passe décisive, vous l'avez vu, hein, c'est une petite balle piquée là pour au deuxième poteau Rodrigo, hein, Gamero qui a manqué une belle occasion ce soir, mais enfin sur les 3 buts en demi-finale de ces deux demi-finales, donc de Valence contre le Betis, 3 buts de Valence, 2 passes décisives, 1 but pour Gamero, qui n'est pas un titulaire incontournable, mais qui fait de belles choses, notamment au niveau de la coupe. Donc un match intéressant, puis ça fait de belles affiches, quoi. Barça-Valence, voilà. Dans le stade du Betis, au Benito Villamarín, le 24 mai, voilà, ça a de la gueule quand même.
Ouais, on rappelle, hein, on est au lendemain de la victoire du Barça 3-0 Bernabéu face au Real. Ils sont comment là, les Madrilènes, ce matin, là, Fredo là?
Bah pas bien, hein.
Ouais.
Bah c'est quand même 3-0 dans la tronche, ça fait mal quand même, quoi.
Et donc, du coup, il y a un peu flippette là pour le match de samedi, reclassico en Liga cette fois-ci là.
C'est pas flippette, en gros, ils pensent surtout au match de Ligue des Champions, hein. Voilà, c'est mardi en plus, hein, c'est contre, ouais, l'Ajax. Résultat était quand même plutôt favorable, 2-1 à l'aller, mais vu le manque d'efficacité comme montré les Madrilènes hier, je vais pas dire que ça sent pas bon pour Solari parce qu'il va rester jusqu'au bout de la saison, mais on a quand même le sentiment que c'est pas, voilà, ça fonctionne pas très très bien là, que la Liga, s'il n'y a pas victoire, parce que même un match nul c'est foutu, victoire du Real qui leur permettrait de revenir à 6 points, ce qui est quand même beaucoup, mais voilà, s'il n'y a pas finale samedi, victoire du Real contre le Barça samedi 20h45, ça sera fini définitivement pour la Liga. Donc cette fin de saison.
Parce que pour la Liga là-bas à Madrid, on dit encore que c'est pas complètement enterré.
Ben,
on n'est pas.
S'il gagne.
Ouais.
S'il gagne, ça fait 6 points. S'il gagne pas, ça fait 9 points. Ou ça fait
6 points. Ça reste beaucoup.
Ça reste beaucoup, mais la différence entre une victoire et une défaite, ça passe de 6 à 12 points. Voilà, donc s'il n'y a pas victoire, c'est fini.
Mais à quoi on peut s'attendre finalement si le titre a priori c'est mort, s'il n'y a pas un truc qui serait absolument dingue, à savoir une 4e Ligue des Champions de suite, on peut considérer oui que ça peut arriver, mais possible. Que ça peut aussi ne pas arriver.
Ça a plus de chances de pas arriver quand même. Hein,
exactement. Donc à quoi on peut s'attendre en cas de là, ça serait une vraie saison ratée. Qu'est-ce que pourrait décider Florentino Pérez, de gros changements?
L'entraîneur, c'est sûr.
L'entraîneur, c'est sûr, mais après les joueurs, c'est difficile de renouveler parce qu'il y en a quand même. Il faudrait qu'on change beaucoup. Puis il y en a pas tant que ça des bons sur le marché. C'est surtout
Bale,
départ,
par exemple. On sait déjà que Bale va partir.
Oui, il
serait parti il y a un an.
Bale, Marcelo.
Marcelo, tu vois, c'est quand même des joueurs essentiels dans la conquête de ces quatre Ligue des Champions en 5 ans. Marcelo Bey, c'était voilà des joueurs incontournables.
Mais est-ce qu'il y a pas des joueurs qui sont peu utilisés et qui vont avoir aussi des envies d'aller voir ailleurs? Je pense à Asensio, je pense à Isco.
Surtout Isco, bah Isco, Asensio,
Isco peut-être que le nouvel entraîneur voudra bâtir avec lui,
non? Ouais, mais bon, il y a quand même plusieurs entraîneurs, il est passé entre les mains de d'Ancelotti, entre les mains de Zidane.
Attends, mais c'est incroyable que ce mec-là soit pas récupérable, il va peut-être en avoir marre. Ça,
il a un talent, mais phénoménal.
Bah oui, oui.
Simplement, il est peut-être plus, on a quand même l'impression qu'il serait mieux dans une équipe avec un jeu parfois un peu moins direct, quoi, voilà, parce que, parfois en contre, voilà, il contrôle trop, il aime beaucoup trop dribbler, etc. Mais il a été dans le désastre du mondial espagnol, c'est le seul qui a tenu son niveau.
Oui, hein, bien, donc, sûr,
C'est un super, c'est un super joueur. Après, là aussi, le très très haut niveau, l'exigence.
Mais comment ils vont faire pour attirer les vedettes qu'ils faisaient pendant des années?
Bah déjà, ça va dépendre du coach, très certainement.
Mais... Oui, non, mais le Real, c'était aussi une dimension. Il faut qu'on ait de la vedette chez nous.
Ah, mais Lopetegui, déjà, ça avait pas aidé. Enfin, c'est là où tu vois que le coach joue aussi. Bah oui, mais, ça a pas aidé, tu vois.
Bah non. Puis Lopetegui, c'était un choix par défaut, parce que plein d'entraîneurs, notamment Allegri, ont dit non, parce qu'ils sentaient bien.
Mais là, il y a qui comme entraîneur?
Mais c'est quoi Mourinho?
L'erreur dans tous les cas.
Ah, mais Mourinho, moi, ça me fait peur.
Mourinho, j'y crois, les gars.
Ah oui, mais t'as raison.
Non, mais l'erreur, elle a été quand tu te sépares de Ronaldo, tu remplaces
Ronaldo.
Il
a voulu partir, Ronaldo, quand même.
Hein, oui, non, mais qui parte ou pas, ça peu importe, mais le vide qu'il laisse, forcément.
Bien sûr. Bah, oui.
Ronaldo, c'est 50 buts. Bah,
par là, il est peut-être également logique que dans le cycle d'un club, le Real devienne, encore que là, on est en train de dire que c'est tout est mort pour cette année.
C'est pas le cas,
mais il est peut-être également logique que dans un club de cette dimension, quand autant gagné, il y ait deux, trois saisons même où il se passe plus grand chose, ou même un peu plus, avant de trouver la star qui va venir, parce que c'est un club qui marche aussi au star system. C'est le club qui a inventé le concept.
Rappelle-toi combien d'années sont passées entre la 9e Ligue des Champions remportée par le Real et la 10e.
Non, mais bien sûr.
12 ans.
Bien sûr. Bah, sans parler de la période antérieure, où
32 ans avait mis le Real entre la 6e et la 7e.
Même si tu prends les années 70, les années 80, 90, l'Espagne, qui est ultra dominateur aujourd'hui, je crois qu'on a gagné que 6 Coupes d'Europe sur ces 30 années-là.
Bien sûr.
Et Ligue des Champions, une seule, celle du Barça en 92.
Et le
98,
Real,
celle du Real, ouais.
Le Real, par exemple, dans ses 12 ans sans Ligue des Champions, il a eu aussi 6 années de suite avec élimination en 8e de finale. Dont une par Lyon, vous vous souvenez. Donc,
Bien sûr.
Voilà, donc le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes supporters pensent que c'est normal de voir le Real gagner la Ligue des Champions tous les ans. Mais non, c'est pas normal. Les gens sont mal habitués. Donc c'est vrai que on se réfère à aux années là, et les gens se disent le Real gagne. Là. Après, si c'est 2-3 ans sans gagner, ça fait. Mais les gens ne le supportent pas. Les gens ne peuvent pas le comprendre, ça. Donc automatiquement, il y aura la révolution dans le vestiaire dont on parle tous les ans, mais qui est reportée parce que finalement le Real remporte la Ligue des Champions. Là, quoi qu'il arrive, elle va être effectuée. Et je pense que Nico a raison quand il dit qu'il y a un risque Mourinho. Moi, j'appelle ça un risque, parce que je pense que Mourinho, c'est fini.
Là, il multiplie les interviews,
José. Ouais, il se prépare. Et puis, je vous l'ai dit, il est parti dans d'excellents termes avec le président Pérez.
Et Ronaldo n'est plus là, tu vois.
Jusqu'à preuve du contraire, c'est Florentino qui décide, parce qu'il est légitime par les votes.
On risque encore d'avoir le feuilleton Neymar encore une nouvelle fois cet été, tu penses?
Bien sûr. Bah oui. Et Mbappé, c'est l'objectif. Mais c'est simple. Mais vous parlez des grandes vedettes. Quelles sont les grandes vedettes que peut acheter le Real?
À un moment, le Real a plus besoin de feuilleton. Le Real a besoin de concret.
Oui,
c'est bien beau si les médias entretiennent le feuilleton. Mais le Real, à un moment, parce que finalement, au bout d'un moment, c'est même contre-productif pour le Real. Parce que le Real, c'est un club qui, s'ils se lancent, ils aboutissent. Donc eux-mêmes n'auront pas intérêt à avoir les médias alimenter ça tout un été si à la fin ça se fait pas. Parce que là, pour le coup, ils passeront pour des cons et c'est pas leur genre.
Est-ce que Florentino va se lancer? C'est ça.
Peut-être il dira clair et net.
Il s'est déjà lancé. Mais à votre avis, quand Neymar signe au PSG, le père est en contact avec Florentino Pérez, et le contact entre monsieur Neymar senior et Florentino Pérez est constant depuis des années. De la même manière qu'il y a un contact régulier avec la famille d'Mbappé. Mais c'est même pas moi qui le dis.
Et quand est-ce qu'ils viennent alors?
attends, c'est moi qui le dis. Quand nous étions à Tallinn pour la Super Coupe d'Europe, il y avait l'ancien directeur général de, pardon, du président de l'AS Monaco qui dit, qui avait dit sur l'antenne d'RMC Sport, à la télé, je viens de croiser le président Pérez, qui me reproche encore de ne pas lui avoir vendu Mbappé. Donc, ouais.
Oui, mais après, ça veut pas dire, ça veut pas dire que ça aboutira.
Mais bien sûr, tu poses la question, le Real a besoin de vedettes, quelles sont les vedettes?
Quelles sont les vedettes dans le football actuel?
Mbappé et Neymar. Ouais. Parce que Messi et Cristiano, c'est pas possible pour le Real. Citez-moi un autre nom.
Il y en a certains
en Angleterre. Ça fait pas forcément plaisir aux supporters du Paris Saint-Germain de l'entendre, mais on va dire que dans l'histoire du football, beaucoup de gens voient quand même, alors peut-être pas tout de suite, mais Neymar et Mbappé au Real, on peut dire qu'il y a quand même de belles chances que ça se produise. Alors,
quand dans deux, trois ans,
c'est possible.
Celui des deux qui était éventuellement le plus susceptible, c'est Mbappé, et franchement, c'est un peu pour ça qu'on est très très loin de ça.
Après, pour répondre à Fred, bien sûr que Neymar et Mbappé, aujourd'hui, voilà, mais il y en a aussi en Angleterre, hein, que tu peux attirer.
Mais pas à ce niveau-là. Dis-moi un nom.
Il y a Hazard, non?
Moi, j'adore Hazard, mais c'est un petit cran en dessus, c'est pas un petit cran en dessous. C'est pas la grande star internationale. Aujourd'hui, vous dites.
Ouais, mais peut-être, aujourd'hui, comme tu dis, médiatiquement, c'est pas sur la même lignée que Mbappé et Neymar.
On parle d'Eriksen.
Mais Eden Hazard, remettez les choses dans le contexte. Eden Hazard, qui est à Chelsea, qui est un grand club, il y a pas de souci. Mais tu mets Eden Hazard tête d'affiche du Real Madrid, je pense que médiatiquement il arrive sur la même lignée que les Mbappé, et les Neymar.
Va falloir qu'il trouve des pistes.
Parce que le fait de signer avec le Real,
c'est ce que je te dis.
Ouais, tout à fait. Tu as raison. Après, il y a un gros problème, c'est la sanction de Chelsea de Mercato sans pouvoir recruter.
Ouais.
C'est compliqué de laisser partir. Enfin,
là, il y a eu appel, c'est suspensif, hein, ça peut prendre des années.
Pour parler d'Eden Hazard, je vois son attitude sur certains matchs et encore le match d'hier.
Il a envie de partir.
Ouais.
Tiens les gars, on va accueillir Ross qui est supporter du Barça qui nous a appelé au 32-16. Salut Ross.
Bonsoir messieurs, comment allez-vous?
Salut Ross.
Toi, t'as le sourire dans la voix, toi.
Je suis objectif. Barça a certes gagné hier, mais ça fait jouer à peu de choses. Hein. Les grandes équipes, encore une fois, c'est les détails. Real n'a pas concrétisé. Barça a été chirurgical, contrairement à Lyon, l'instant passé. Ça a payé. Maintenant, je pense que cette année, tout est réuni pour tout gagner. Malgré que j'avais écouté une émission récente où Daniel avait dit que c'est vrai que depuis quelques années de Barça, on régresse.
J'ai pas entendu, excuse-moi.
Que Daniel avait dit que le Barça, depuis plusieurs années, on régresse. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Depuis le départ de Xavi et Iniesta, surtout Xavi, on gagne plus la Champions League. Mais le fer de lance de Barça cette année, c'est la Champions League. J'ai été à Gamper au tournoi début d'année au mois d'août. Messi l'a dit clairement, on doit ramener la Champions League à la maison.
Merci de le rappeler, parce que je me suis égosillé à le dire. Il a marqué l'objectif de la saison. Tu t'en souviens, c'était au trophée à Barcelone. Tu étais au stade, c'est ça, hein?
Oui, tout à fait.
Ouais. Et quand le boss dit on veut ça, voilà.
Prêt
à faire des choix pour ça. Pas parce que tu dis je vais l'avoir que tu vas l'avoir forcément, hein.
Mais ça veut dire des choix à certains moments, quoi.
Ouais.
Maintenant, il y a des lacunes. On est conscient certes, on a renforcé le milieu de terrain avec Vidal et Arthur qui sont des vrais recrues. Coutinho a du mal à s'imposer. Dembélé, c'est encore brouillon, même si, par exploit, il a du potentiel. Il arrive à nous surprendre. Parce que pour moi, je suis désolé, hein. Il est extraordinaire sur quelques phases de jeu, mais il n'est pas assez régulier, constant pendant un match. C'est trop brouillon encore.
On l'a vu contre Lyon,
il n'était pas bon du tout. Même hier, en premier temps, il n'était pas bon.
Ouais. Mais sauf qu'au deuxième mi-temps, c'est lui qui qualifie le Barça.
On remercie Ross qui nous a appelé au 32-16. Les gars, on va aborder une autre question qui est en rapport d'ailleurs avec un aspect plus juridique qui concerne des clubs espagnols. Hier, le tribunal de l'Union Européenne a pris une décision importante pour certains clubs de Liga. Il a annulé la décision de la Commission Européenne qui en 2016 qualifiait d'aide d'État le régime fiscal de 4 clubs, dont le Barça et le Real. Il y a Osasuna également et l'Athletic Bilbao qui sont concernés. On va analyser cela avec un avocat. Et du coup, Jérôme Thomas vous a trouvé un jingle avocat.
Avocat.
C'est quoi?
Les nerfs à vif.
Je suis les nerfs à vif, c'est De Niro.
Maître Emmanuel bon Durand est avec nous pour nous expliquer tout cela. Bonsoir maître.
Bonsoir messieurs, c'est sympa comme jingle.
Ah, il est pas mal, c'est
bien bonsoir, accueilli.
Il fait flipper un peu quand même.
Bah, l'avocat, il va pas bien après. Hein.
Non, il finit mal, ouais. Alors, maître, expliquez-nous concrètement en quoi consiste cette décision de la commission au final, enfin du tribunal d'ailleurs.
La commission qui avait déconné. Voilà.
Oui, en effet. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. Puis bien, je vais essayer parce que les aides d'État, c'est quelque chose en général d'assez compliqué. En gros, les règles du fonctionnement du marché unique européen sont basées sur la libre concurrence, qui fait que lorsqu'un État vient directement aider une entreprise privée en lui payant des subventions ou en lui accordant des réductions d'impôts, on va considérer, a priori, que c'est contraire au fonctionnement de la libre concurrence. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les aides d'État sont interdites, hein, des entreprises qui sont aidées par les États, mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est que ce soit prévu expressément par les règles du droit communautaire. Pour schématiser, le fonctionnement normal du droit, en gros, c'est que tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé. En matière d'aides d'État, c'est le contraire. Tout ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? En 90, en fait, la législation espagnole a obligé les clubs sportifs, ce qui était passé déjà en France, à opter pour un statut de société anonyme sportive, sachant qu'avant, elle était organisée en association à but non lucratif. Ce qui peut sembler bizarre, d'ailleurs, pour des clubs de football, de se dire qu'on est à but non lucratif.
Oui, pour le Real et le Barça, une association à but non lucratif, c'est sûr que c'est un peu étonnant, mais bon.
Ouais, c'est étonnant, mais ça l'est pas. En fait, à but non lucratif, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de gagner des sous, ça veut dire simplement qu'on n'a pas le droit de distribuer ses sous à ses actionnaires.
Distribution de dividendes.
Oui. Exactement. C'est pour ça que le Barça, le Real, ça appartient en fait à ses supporters. Ça appartient à ses sociaux et pas à des actionnaires qui reçoivent des dividendes là-dessus. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, en fait, la législation espagnole en 90, elle avait dit une chose. Elle avait dit tous les clubs doivent passer en société anonyme sportive. Simplement, ceux qui, sur les exercices précédents, ont fait des bénéfices, peuvent rester en une association à but non lucratif. Et il y avait 4 clubs qui étaient concernés, dont le Barça et le Real, il y avait aussi l'Osasuna Pamploune et l'Atlético Bilbao.
Exactement.
Mais c'est vrai que c'est le Barça et le Real aussi qui sont ici, qui sont assez importants. Alors, cette différence de traitement de société, en fait, entre d'une part les clubs qui étaient en société anonyme et puis les clubs qui étaient restés en association, elle amenait une différenciation de traitement fiscal. Et notamment en termes d'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu qui avait été appliqué aux sociétés anonymes sportives était plus élevé que l'impôt appliqué aux organisations à but non lucratif. Et ça, la Commission européenne s'est saisie de ça, elle s'est saisie de ça et d'autres questions d'ailleurs à l'époque.
Parce que les autres clubs espagnols s'étaient plaints de la situation.
Pas forcément. La commission à l'époque, Sager l'avait dit, le football il est pas au-dessus des lois. On constate qu'il se passe des choses en Espagne, il n'y avait pas que ça d'ailleurs, hein, Fred, vous le savez, il y avait aussi la question de l'achat du terrain d'entraînement par la municipalité de Madrid, qui est d'ailleurs toujours pas terminée aujourd'hui cette histoire, hein, puisque la commission avait infligé une sanction, enfin demandé un remboursement à l'époque au Real, et aujourd'hui c'est encore pendant devant le tribunal de l'Union Européenne. Donc à l'époque, c'était une démarche politique, je dirais, surtout de la Commission Européenne, qui était de dire tiens, on va montrer que le foot est pas au-dessus des lois. Et notamment, ce régime fiscal avait été étudié. La commission, au bout du compte, avait dit, ben ouais, il y avait un avantage qui était pour le Real, pour le Barça et pour les deux autres clubs.
De 5%.
Et cet avantage doit être remboursé de 5%. Et au final, alors ça
reste... Sur combien d'années? Parce que ça faisait un avantage
sur 25
conséquent
ans.
Quand même, hein. Sur plus de 20 ans.
Sur
hein.
25 ans, mais sur 25 ans, et la commission elle-même a dit, moi je peux pas le calculer, c'est l'État espagnol qui va calculer, mais sur 25 ans, ça fait 5 millions d'euros maximum par club. C'est dérisoire.
Ça correspond à quoi ces 5 millions d'euros? Ça correspond pas à ce qui avait été réellement perçu.
Si maître me permet, on ne parle pas d'aide d'État, on te parle que les impôts sont moins élevés. L'impôt sur les sociétés en Espagne est de 25%.
La ponction est moins importante.
L'impôt sur les associations est de 20%. Voilà, c'est la différence sur les 5, ça correspond les 5 millions sur les 5%. Voilà. Ouais. Quand on sait par exemple que le chiffre d'affaires du Real Madrid et du Barça dépasse les 700 millions d'euros, on parle même pas d'une goutte d'eau, maître.
C'est clair. Non, non, mais c'est clair, c'est négligeable. Et Fred, il y a une chose qu'il faut rajouter, et c'est ce qui aboutit finalement aujourd'hui à l'annulation de la décision de la commission par le tribunal. Ce qu'a dit le tribunal, c'est d'accord, vous examinez la variation et la différence du droit des sociétés entre les deux types de structures. Maintenant, il y a d'autres considérations fiscales qui rentrent en cause, et notamment ce qu'avait dit le Réal devant le tribunal, c'est de dire que quand on a un réinvestissement d'un certain nombre de bénéfices, le régime fiscal, cette fois-ci, il est plus favorable pour les sociétés sportives que pour les associations à but non lucratif. Donc notamment, quand on réinvestit des bénéfices pour acheter des joueurs, il vaut mieux être en société anonyme que en association à but non lucratif d'un point de vue fiscal. Et le tribunal, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui, il a dit la commission, vous n'avez pas bien fait votre travail, vous auriez dû regarder de façon extrêmement approfondie si, au final, l'ensemble du régime fiscal, et pas seulement l'impôt sur les sociétés, est plus favorable pour les sociétés anonymes que pour les associations. Vous avez essayé de le faire, mais vous ne l'avez pas suffisamment bien fait, et c'est ce qui aboutit aujourd'hui à l'annulation de la décision par le tribunal de l'Union européenne.
Pour être concret, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse, c'est un peu le mythe des clubs qui auraient avantage ou pas avantage un peu partout en Europe, puisque chaque club trouve toujours des poux dans la tête du voisin. On sait qu'il y a eu dans tous les pays, en Italie, il y a eu des avantages fiscaux dans l'étalement d'une dette à un moment. L'Espagne a eu à un moment donné un régime fiscal un peu plus, même bien plus favorable quand les joueurs étaient étrangers. Ça permettait de les faire venir.
Enfin, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, et en fait, ça ne concernait pas les joueurs, ça concernait les cadres des multinationales. C'était utilisé pour les joueurs. Mais oui, oui. Au départ, ça n'avait pas été pour le football.
Tout ça, maître, nous renvoie toujours au vieux mythe de l'harmonisation fiscale qui n'existe pas.
Bien sûr.
Aux décisions qui, quand elles se retrouvent devant le tribunal de l'Union européenne, en matière de football, souffre quand même quand on veut faire de la politique plutôt que du droit. Et ça nous amène, et ça doit être peut-être la conclusion, cette histoire toujours récurrente du fair play financier.
Et de la TPO, parce que ça va être très très excitant dans les prochains mois. La décision sur la TPO va être très très excitant dans les prochains mois.
À chaque fois, c'est toujours vrai, c'est que le conservatisme du football et des vieux clubs qui ne veulent pas de nouveaux arrivants qui pourraient bénéficier davantage, à chaque fois, devant
le
tribunal européen, à chaque fois, ça tombe.
Non, je pense pas. Le tribunal, il a fait du droit, c'est pas une question.
Oui, c'est ce que je dis, il fait du droit et pas de la politique.
La commission, elle a pas bien fait son travail, c'est tout. Voilà. Si elle avait bien fait son travail, la décision aurait été confirmée. C'est vrai que c'est des choses qui sont assez difficiles à aborder sous l'angle des aides d'État, parce que, vous l'avez dit, Daniel, il y a l'harmonisation fiscale, c'est un vieux mythe européen, et les différents États ont des régimes fiscaux différents qui concernent pas que le football, hein. Et aujourd'hui, on dit, le régime fiscal favorable qu'avait l'Espagne, aujourd'hui, sur l'impatriation, il existe toujours en France. Et il bénéficie aux footballeurs, mais il bénéficie pas que aux footballeurs. C'est le problème de ces choses-là peuvent être traitées sous l'angle des aides d'État. En matière d'aides d'État, il y a un principe qui est celui de la sélectivité, c'est-à-dire qu'il faut viser un secteur particulier. Aujourd'hui, les régimes fiscaux qui visent à attirer les cadres ou les gros salaires étrangers, ils visent pas que le football, mais ils concerneront aussi le football.
Après, et il existe en France, ça.
Ça existe en France. Tout à fait.
Mais plus en Espagne pour les footballeurs.
Et qu'est-ce qui va se passer le jour où quelqu'un contestera le fair-play financier?
Alors, mais c'est le cas déjà d'ailleurs.
C'est déjà le cas. Hein. Il y a des contestations sur fair-play financier, sur le fondement du droit de la concurrence, parce que comme vous l'avez dit, en fait, le fair-play financier, une des conséquences du fair-play financier, une des conséquences directes, c'est de privilégier des positions établies. Parce que par définition, quand on a des nouveaux investisseurs qui arrivent dans un club et qui veulent faire des grands clubs, ça coûte des sous au départ et les revenus sont pas forcément en face. Donc au départ, il y a des pertes. Et ces pertes, elles sont compensées par les actionnaires. Bien sûr, ce qui plaît pas à des clubs qui sont déjà installés, comme le Barça, comme le Real, qui auront...
Et comme le Bayern, ne l'oubliez pas, parce que c'est vraiment le Bayern qui manipule en sous-main.
Bien sûr. Donc le fair play financier est déjà contesté. Alors le fair play financier, il a des avantages et des inconvénients, c'est toujours la difficulté, il faut faire la balance entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien.
C'est vrai.
Il aboutit quand même à diminuer un petit peu l'inflation aiguë qu'on peut voir dans le foot, donc ça c'est une bonne conséquence. Je sais pas si au final il sera remis en cause sur le fondement du droit de la concurrence. Il avait quand même à l'époque été discuté de façon très approfondie par Michel Platini avec la Commission européenne. maintenant, c'est vrai que la Commission européenne, on l'a vu ici, bah, ses décisions ouais. peut-être aussi remises en cause, hein, c'est clair.
Maître Emmanuel Durand, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci c'est pour ces indications, ces explications, ouais. Maître.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Si tu me permets simplement d'ajouter une petite chose, puisqu'on en a terminé sur cette affaire, et je pense que là, on a tout à fait compris, grâce à l'explication brillante de Maître Durand, que qu'il n'y a pas d'avantage pour les clubs des socios. Voilà, tout simplement, voilà, il a bien expliqué. Une chose, le Real et le Barça rapporte à l'État, et ça je sais, je tiens le chiffre directement du haut fonctionnaire qui a lancé la DNCG en Espagne, qui l'a dirigé pendant plusieurs années, le Real et le Barça rapportent en impôts et en cotisations sociales 350 millions d'euros chaque année à l'État espagnol. Donc voilà, ce sont des entités qui payent beaucoup beaucoup d'impôts, puisque le régime fiscal en Espagne, notamment sur l'impôt sur le revenu,
comme
est très élevé.
Comme les gros clubs, comme ouais. les gros clubs en France.
Ouais, oui, bien sûr, exactement. Alors, et la question, le jour où il faudra parler d'équité, etc., ben on en parlera, par exemple, de l'impôt sur les sociétés en Angleterre, qui est l'impôt sur les sociétés en Angleterre.
La fameuse question de l'harmonisation fiscale qui est inexistante,
bien sûr,
comme le disait
voilà,
Maître
il est beaucoup
Durand,
moins élevé, les impôts sont beaucoup moins élevés en Angleterre. Sûr. La Première Ligue bénéficie de plein de choses. Vous avez eu toutes ces histoires où plein de joueurs, quand même, peuvent être payés légalement offshore.
Ouais, ouais, ouais.
Donc voilà. Donc, on essaye de chercher des poux à des clubs en Espagne et en France. Et moi, je suis d'accord que le PSG, par exemple, est désavantagé au niveau européen par rapport aux Anglais, parce qu'il y a une fiscalité plus élevée en France.
On rappelle que l'équipe de France féminine s'est inclinée ce soir 1-0 face à l'Allemagne, match de préparation en vue du Mondial 2019. RMC soutient l'équipe de France féminine à l'occasion des matchs de préparation pour ce Mondial 2019. Toute cette semaine, on vous offre vos places pour France-Uruguay. Ce sera le lundi 4 mars à Tours. Pour remporter vos places, vous allez sur le compte Twitter de l'After, @AfterRMC. L'After qui, lui, revient juste après ça.
RMC Football Show. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Daniel Riolo, de Jérôme Roten, d'Anthony Quintela, le vainqueur de l'After Academy. Kevin Diaz également est avec nous, tout comme Fred Hermel. On va évoquer dans quelques instants, on va parler jeu, on va parler foot. On remercie une nouvelle fois Maître Emmanuel Durand du cabinet Depardieu Brocas Maffei qui est avec nous il y a quelques instants.
Il peut pas nous réexpliquer là.
Depardieu, il y a un cabinet d'avocats.
Exactement.
J'ai pas tout compris moi, donc...
vu que... On t'a pas perdu toi à l'espace d'un instant.
Je vais prendre rendez-vous avec son excellence, il va t'expliquer.
On m'a perdu sur la fin, on m'a perdu un peu.
Kevin Diaz, alors t'es avec nous, parce qu'il y aura Reclassico alors ce week-end entre le Barça et le Real, mais le Real qui aura surtout dans quelques jours son huitième de finale, retour face à l'Ajax. On rappelle qu'il y a une petite info très importante qui est tombée aujourd'hui également. Ramos est suspendu 2 matchs par l'UEFA après avoir forcé son carton jaune lors du match aller.
Malin, finalement il rate le quart de finale.
Encore une décision en faveur du Real Madrid, mais c'est tous les ans pareil. L'an dernier Carvajal contre le PSG,
c'est vrai que ça arrive
cette
à
année Ramos.
Ouais.
Tous les ans il y a au moins un ou deux matchs où il joue avec.
Mais
non, mais en plus le truc, ce qui s'est rapidement, ce qui s'est passé, c'est pas la faute qu'il fait, parce que la faute, en fait, il doit la faire. C'est une faute tactique. Il y a une menace de contre de la part de l'Ajax, alors que ça fait 2-1 pour le Real. Le problème, c'est que après, il y a un joueur qui lui pose la question et il dit, ouais, ça m'arrange et tout, et voilà, trop tard quoi.
Alors ouais. Kevin, toi qui as joué 7 ans aux Pays-Bas, c'est vrai que c'est un débat qu'on voulait se faire déjà il y a depuis quelques semaines.
Sur
dans
toi,
l'affaire.
Fortuna, Cittard.
Cittard. Pourquoi il y a cette obsession du jeu du côté de l'Ajax?
C'est pas que du côté de l'Ajax, hein. Comme je disais la dernière fois à Tim Duga, c'est vraiment du haut de la pyramide, mais jusqu'en bas, en district, le dimanche matin, vous allez aller voir un match. Alors, ils n'auront pas forcément les qualités techniques de l'Ajax, bien sûr, mais ils vont essayer de jouer, ils vont essayer de repartir de derrière, ils vont essayer de proposer.
Ils vont pas mettre des grosses savates devant.
En tout cas, pas a priori, pas dès la première minute. Voilà, il y a vraiment une mentalité qui.
Pas comme un bagatelle le dimanche matin.
C'est tout simplement de prendre du plaisir. Et le plaisir, c'est d'avoir le ballon, c'est d'aller vers l'avant, c'est de marquer des buts. Moi, j'ai joué cette année aux Pays-Bas et que ce soit en D1, D2, j'ai vu honnêtement pas plus de 10-0-0 dans mon équipe, quoi, dans les matchs que j'ai joués. Voilà, parce que
donc c'est une vision, c'est une philosophie dans tous les clubs on enseigne, c'est la façon dont forment les entraîneurs. Parce que ce
exactement,
que tu vas dire là va rentrer en comment dire en contact avec deux faits d'actualité qui nous ont marqué ces derniers temps. Le premier, c'est le match aller Ajax Real où le lendemain avec Jérôme on en avait parlé. On était obligé, malgré la défaite, d'être enchanté par ce qu'on avait vu, parce que c'était un super match, et parce que, au-delà de la défaite, je pense que les gens de l'Ajax étaient assez fiers de l'image qu'ils avaient montrée, et de dire, on a perdu contre le Real c'est un crack, ils sont efficaces, ils nous plantent, mais ce qu'on a montré, c'était formidable, et tout le monde nous a aimés, donc au-delà du score, Et moi, j'adore l'idée qu'au-delà du score, on puisse aimer les gens. Et le deuxième point d'actu où ton expérience nous intéresse forcément, c'est depuis deux jours le constat qu'il n'y a plus d'entraîneurs français à l'étranger et que ça pose la question de notre formation des entraîneurs et indirectement évidemment, ou même plutôt directement, du jeu et de l'inventivité, de ce qui se passe aux Pays-Bas, en Allemagne, avec toute la nouvelle génération, Tuchel, Nagelsmann et tous ces gens-là.
C'est exactement ça. De toute façon, t'aurais même pu parler de la discussion avec Pierre après le match de Saint-Etienne, où tu parlais de la mentalité qui se dégage du football français en général, et du manque d'ambition qui, par rapport aux moyens, que ce soit financiers, mais également des installations, des stades, de la passion quand même... et de qui a quand même en France des deux étoiles, etc. On se doit d'être plus ambitieux. Et tu disais que l'Ajax peut être fier d'avoir perdu. Non, ils sont fiers d'avoir bien joué, mais eux ils pensent qu'ils devaient gagner et ils vont tout faire pour aller gagner au Real.
Mais c'est ça qui est génial.
Ils se contentent
dans l'idée, c'est génial. Voilà. Après peut-être évidemment ils se qualifieront certainement pas.
C'est
mais,
pas facile, ouais.
Mais ils vont tenter le truc.
Voilà, ils vont tenter le truc. Comme moi, j'ai fait deux ans au FC Eindhoven et on était en bas de classement. Mais chaque match, j'étais un peu choqué parce que tous les matchs, l'entraîneur voulait gagner le match. On va jouer chez le premier. Le discours du coach, c'est nous, on y va pour prendre les trois points. Maintenant, c'est à 10 minutes de la fin, bien sûr, on est à 0-0. Bon, on va fermer. On n'est pas non plus, ils sont pas non plus maso. Mais je veux dire, c'est vraiment une mentalité et il faut vraiment comprendre ça pour les gens qui connaissent pas trop le football néerlandais. Mais c'est pas que le football néerlandais.
Aujourd'hui, en Espagne, en Allemagne, le discours qui est dominant en Espagne.
Alors, j'aime faire l'avocat du diable, mais alors, juste pour reprendre ton constat, Daniel, mais c'est que, au final, aujourd'hui, quand tu vois les résultats, aujourd'hui, ça fait quelques années, des sélections néerlandaises, c'est pas trop ça. Donc, les résultats sont pas là. Et puis, les entraîneurs néerlandais, puisque tu parlais des entraîneurs français, ils s'exportent pas des masses non plus, maintenant.
Alors, le jour où on fera juste la moitié de ce qu'on fait les entraîneurs néerlandais dans l'histoire du football, ce sera
après,
déjà.
Mais juste, j'aimerais comprendre pourquoi.
Le nombre de Coupes d'Europe qu'on gagne
entraîneurs. Non, mais Daniel, je te dis pas l'inverse.
Pourquoi,
mais juste, j'aimerais comprendre pourquoi.
Ils ont une façon de former les joueurs. Alors en France, on dit souvent que la formation française, elle est très bien. Elle a été peut-être à un moment peut-être la meilleure dans les années 90. Elle a été très très bien. Mais aujourd'hui,
on avait une quantité qui était énorme. Voilà. Donc sur une quantité aussi énorme.
Non, mais exactement duré plutôt que les autres.
Exactement.
Non,
j'ai dit à Vidal,
la stratégie qui était différente.
Sur Twitter, des fois, on me dit oui, mais vous parlez des Pays-Bas, du Portugal. On a deux étoiles en France. Mais on est 67 millions d'habitants. Les Pays-Bas, ils sont 16 millions. Les Portugais, ils sont 11 millions. Donc, à un moment, on peut bien travailler, mais il y a quand même le brassage et la pépite qui est Mbappé aujourd'hui. Donc, ça, c'est un fait. Mais la façon dont ils ont de former les gens, vous voyez les passes là, qui passent pour ceux qui sont sur RMC Sport News. Quand on fait un cheminement aux Pays-Bas, et que ce soit chez les U8 jusqu'aux seniors, on travaille quasiment de la même façon. C'est-à-dire que même en senior, on continue de travailler la technique. Et encore plus peut-être que chez les jeunes. Alors qu'en France, déjà, on part du principe qu'un senior, il arrive, il a la formation à la française, un peu l'arrogance de chez nous, il est bien formé, voilà. C'est terminé, maintenant on va laisser travailler le physique et la technique.
Comment ils sont vus les Français par les Néerlandais justement?
Non, ils sont quand même bien vus, bien sûr qu'ils respectent tous les grands pays de foot qui ont eu des résultats. Mais voilà, eux c'est vraiment la minutie dans la formation.
En fait,
c'est-à-dire passer le ballon sur le bon pied, l'orientation du corps, et constamment et à tous les niveaux. Et ça, c'est vraiment une rigueur, comme a dit Daniel,
ça,
qui part de l'entraîneur.
C'est historique. Des dizaines d'années, comme
c'est
ça.
C'est le Barça, c'est l'Ajax de Cruyff. C'est cette façon de travailler dans la minutie, la précision technique du geste, de l'orientation du corps, de la bonne passe, comme dit Cruyff. Voilà, donner un bonne passe dans la course de son partenaire. Et ça, ils insistent sur tous ces détails quotidiennement.
La chose, c'est que tu disais comment nous on est vu à l'étranger. Alors moi j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de pays. On est bien vu nous les Français.
Ouais.
On est très bien vu. Le problème c'est que on est bien vu parce
comment
que
nous, on voit les autres.
Bah, ouais. Et parce que il y a des pépites à chaque génération. Nous on est beaucoup. Il y a des pépites. C'est ces pépites là qui te permettent d'avoir une très bonne image
à
l'étranger.
C'est vrai.
Et cette image, elle a quand même évolué parce que. Je le redis souvent, mais moi j'étais formé donc en préformation, je suis arrivé en 91. C'était le début de la fin de ce côté-là dans la façon d'aimer le foot. Nous on surfait sur la génération Platini, l'équipe de 86, l'équipe de 84, l'équipe de 82. Voilà, la stratégie, elle était claire. T'apprenais des tout gamins à Clairefontaine et ailleurs la technique avant tout et tu progressais d'année en année. Bien comme sûr. Ça
il y a un truc qu'il faut savoir sur la formation des entraîneurs aux Pays-Bas. Moi j'ai des amis qui sont en fin de carrière aux Pays-Bas. Daniel, ça va lui faire plaisir. En France, avec Jérôme, on a passé les diplômes. À partir de 100 matchs professionnels, voire même de niveau national, on peut arriver à avoir en une saison de formation l'UEFA A, qui permet quand même d'être adjoint sur un banc professionnel au minimum. Aux Pays-Bas, pour avoir le UEFA A, peu importe que vous ayez joué à l'Ajax ou en 8e division de district, c'est 3 ans de formation. Ils donnent rien. C'est-à-dire que la personne qui est coach professionnel aux Pays-Bas et qui a eu ses diplômes aux Pays-Bas, il a fait toutes les formations, peu importe son palmarès. Et forcément, ça crée des meilleurs entraîneurs.
Et ça, moi, j'avais rencontré Van Gaal il y a 8 ans maintenant. Ça, il y tenait, mais à mort. Il ne voulait pas.
C'est très important.
Il disait, je m'en fous des mecs qui ont été champions avant et tout. Il faut qu'ils étudient. Il faut qu'ils viennent à l'école. Qu'ils apprennent, qu'ils passent les diplômes.
Il y a un contre-exemple énorme, les amis.
Vas-y, Fred.
Est-ce que Cruyff était un grand entraîneur?
Et donc?
Il a jamais passé de diplôme.
Oui, non, mais il y a un contre-exemple.
Oui, mais aujourd'hui, on ne peut plus être entraîneur.
Moi, je veux bien, mais enfin, le chantre du beau jeu est l'un des,
et
l'entraîneur de ce qu'on appelle la
vie. Il y a toujours des contre-exemples.
N'avait pas passé de diplôme.
Mais la règle, c'est que même un mec comme Zidane, il est allé à l'école.
Il a fait 3 ans, lui. Et en Espagne, il y a de grands entraîneurs. Et en Espagne, si t'es international, en gros, en 6-7 mois, tu peux être entraîneur.
Mais en France, un Thomas Tuchel, un Unai Emery, voire même un Jardim, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'entraîneurs amateurs qui ont le niveau.
On en a souvent parlé ici d'ailleurs avec Mercadal, avec Pélissier, qui eux du coup ont connu le très haut niveau parce qu'ils ont fait monter leurs équipes.
Après, bien sûr que.
Mais la question de l'accession au diplôme, c'est vrai que c'est quelque chose, enfin franco-français, et le pire, on en a souvent parlé ici.
Et le blé que ça coûte.
Non mais attends, c'est que quand t'es entraîneur étranger et que t'arrives en Ligue 1, si t'as pas l'équivalence Ligue 1, l'UNECATEF, le syndicat des coachs, te tombe dessus, demander à Ricardo.
Après, on travaille.
Le syndicat des entraîneurs.
Il y a qui là-dedans?
Arrête, Daniel.
Bah non, mais donne-moi.
Arrête,
t'es
taquin, toi.
Bien sûr qu'on travaille bien.
Arrête, aussi
en France.
Tu sais qui y a là-dedans?
On sait tous, mais.
Me dites pas.
On a besoin de passer les diplômes aussi.
Non. Je sais pas, dites-moi, il y a des noms, il y a des entraîneurs qui...
Arrête. Bon, mais bon, après, c'est vrai que pour les Pays-Bas, gagner un match, ça suffit pas. Moi, j'ai joué dans des clubs, alors c'est pas forcément l'Ajax ou le PSV. Tu peux mener, Jérôme, 1-0 à la mi-temps.
Je te jure qu'avant la mi-temps,
tu te fais siffler si t'es nul.
Mais Kevin, j'en parlais avec Daniel la dernière fois. Le gros problème qu'on a, nous, c'est qu'on met avant tout le résultat. Avant toute chose. Alors que, déjà, en équipe de jeunes, je te parle pas au niveau pro parce que des équipes, elles luttent et elles veulent pas descendre parce que financièrement, ça les met en difficulté. Allez, on peut comprendre. Et encore, j'ai du mal, vraiment. Ouais. Mais c'est de plus en plus. Mais en jeunes, excuse-moi, l'obligation de résultat ne doit pas exister.
Non, mais c'est sûr.
Tu dois faire.
Ça, comme c'est l'éternel débat d'ailleurs.
Non, mais elle doit pas. Pour moi, c'est des conneries quand t'entends. Oh là là, quelle génération. On est champion du monde en U16, U17, bravo. Oui. Mais attends, les champions du monde U16, U17, est-ce que derrière, ça te garantit d'être des.
Au contraire. On leur fait en général quelque chose qu'ils n'auront pas forcément.
Souvent, je disais en espoir, et j'ai souvent eu cette phrase-là. Alors, ça allait par rapport à ma carrière où j'ai jamais été en espoir. Mais je disais que ceux qui brillaient en espoir, pas tous, il y en a eu des contre-exemples. Ceux qui brillaient devenaient des désespoirs derrière.
C'est sûr.
Parce que tu brilles en espoir, parce que physiquement, parce que ceci, cela, t'as une génération
avance,
qui te permet.
Mais
Daniel dit. Mais quand t'as 25 ans, après, c'est quoi le problème?
J'ai souvent entendu Daniel dire les joueurs, ils rechignent pas à travailler lorsqu'ils vont à l'étranger. Mais c'est aussi peut-être parce que quand ils vont à l'étranger, la qualité du travail proposé est meilleure, tout simplement.
Non, parce que
moi, je l'ai connu. Aujourd'hui, si.
Non, mais Kevin, moi, je suis contre là-dessus. Je suis contre parce que quand Daniel dit souvent, et souvent je l'ai repris, je suis pas d'accord. On travaille. En France.
Bien sûr.
On travaille dur pour certains. Il y a des séances qui durent.
Oui,
il y a des trucs.
Le physique, les 15-15.
Mais on travaille peut-être mal.
En 7 ans de football hollandais, j'ai fait aucun 15-15. Jamais.
Oui, mais alors, tu vois, il y a certains clubs qui essayent de se restructurer. Et je pense notamment au Paris Saint-Germain qui veut beaucoup miser sur la formation. Mm-hmm. Bah, va demander aux étrangers qui viennent d'arriver au club comment ça se passe avec ceux qui sont sur place. Vous savez que, on parle beaucoup de ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Le nerf de la guerre, c'est pas juste Tourelle, Antero et tout ça. C'est tout ce qui se passe avec le centre de formation et la restructuration qui doit être faite au sein du club. C'est le gros problème du PSG et des embrouilles qui sont au sein du club. Mm-hmm. Ça se passe surtout là, aujourd'hui, au Paris Saint-Germain.
Ouais, mais PSG, dans tout ce qu'on dit là, c'est
travaille bien, le PSG.
Minime.
Mais moi je te dis,
c'est minime, mais
c'est censé être l'une de tes têtes de gondole au niveau de la formation.
Aujourd'hui, l'Ajax à la formation, ils sont exceptionnels parce que, comme dit Jérôme, le résultat c'est bien, mais c'est d'abord former le joueur qui va pouvoir atteindre le haut niveau. Peu importe ses résultats en U15, U17, U19, il faut que le joueur, aujourd'hui, moi je pense que si je suis consultant, c'est pas forcément pour la carrière que j'ai eue en France,
c'est pour l'oseille.
Non plus. Mais c'est peut-être parce que, par la capacité d'analyse que m'ont donné mes différentes années aux Pays-Bas, dans un pays où non seulement on te fait grandir comme joueur de foot, mais aussi on fait grandir ton QI football et ta réflexion
sur le
jeu.
Est-ce que sur un an de diplôme avec moi, t'as grandi?
Surtout quand on a fait envoyé les galettes pour Julie et Govou depuis le côté gauche.
Allez, on y va. Stop, les gars.
Kevin, ceux qui parlent foot depuis l'étranger sont toujours meilleurs que ceux qui ont leur foot sur chose à Paris.
J'aimerais qu'on termine ce talk avec cette phrase de Jérôme Rotten. Ceux qui brillent en espoir deviennent désespoir. Merci beaucoup, Fred, d'avoir été avec nous.
Adios, Ticos.
Merci. Bonne soirée.
Ça coûte le diplôme en Portugal pour être entraîneur?
Putain, je sais pas du tout.
4000 balles. Combien ça coûte en France?
C'est 20 000 minimum en France. Je sais parce que j'avais fait pour le livre.
35 000.
Ouais. En France, alors minimum, c'est très cher.
Ça dépend lequel.
Donc, c'est pas un mec qui peuvent pas. Quoi.
Quelques instants, Julien Laurent sera avec nous. On va parler de Première Ligue. Il y a une journée, hier et avant-hier. On n'en a pas encore parlé. Merci beaucoup à Fredo. Bonne soirée.
Adios.
Et nous, on vous dit à tout de suite.
Bonne nuit.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten, Anthony Quintela, vainqueur de l'After Academy, est avec nous, tout comme Kevin Diaz, consultant RMC Sport, alors spécialiste de l'Eurodivisie, spécialiste du foot portugais aussi, tu commentes aussi la Première Ligue. En fait, il sait tout faire, ce mec. Il fait les mariages, les communions. Et alors, d'ailleurs, puisqu'on parle du foot portugais, petite parenthèse, gros match samedi. Hein. Classico, match entre le FC Porto et le Benfica. Un point d'avance pour les Dragons, ça va être chaud bouillon.
Ouais, c'est vrai.
Tu vas pas être là, toi.
Ça va être un gros match. Non, malheureusement, j'ai d'autres obligations.
Vas-y, raconte, c'est quoi? Dis-le, c'est où?
Ah, c'est à Belfort, un match de National 2 avec les Citanos de Saint-Maur. Faut se maintenir quand même.
Tu savais pour Nico, en fait?
Deux?
Qui est portiste?
Il est con, lui.
Tu le savais?
J'assabimche. Ouais. Dans le petit cercle.
Mais voilà la preuve!
Il est vraiment débile.
Tout le monde le sait. Sur RMC Sport.
Tout le monde le sait.
Comme si je m'en étais caché. Il faudra pas recommencer.
Bah attends, j'ai fait un match avec lui là-bas.
Oh, le portiste. Oh.
C'est vrai qu'on avait fait un match ensemble. Oh putain, c'était juste après. Oh là là, c'était merveilleux.
Donc forcément, on est obligé. On déteste Benfica quand on est portugais.
Ah, salut de voix.
Ah tiens, et autre petite parenthèse. Information d'Abola. Vous savez qu'il y a le nom d'un entraîneur portugais qui est annoncé du côté de l'Olympique Lyonnais.
Ah bah j'y crois même pas.
Moi non plus, parce que rien que le salaire.
Seconde.
Jorge Jesus, qui vient de résilier avec son club en Arabie Saoudite.
Jorge Jesus à Lyon.
Mais jamais de la vie. Mais
il va bien s'entendre avec ça.
Alors hier, il a signé avec Nizami.
Parce qu'Abola, il disait un truc.
Non, mais je te dis pas que c'est vrai. Je te dis que c'est une info qui se balance aujourd'hui. Julien Laurence est avec nous. Bonsoir Julien.
Salut les gars.
Salut Jenny.
Et Julien, toi aussi, t'as un entraîneur qui est dispo sur le marché depuis aujourd'hui.
Oui, c'est présent au LAS.
Claudio Ranieri s'est fait virer de Fulham, dis donc.
Voilà, après 106 jours, donc deux de plus que Thierry Henry, 106 jours à la tête de Fulham. 3 victoires en 17 rencontres, c'est pas glorieux. Il est arrivé, ils avaient 3 points de retard sur le premier non relégable. Il est viré, ils en ont 10 de retard, avec une différence de but qui était de moins 7 quand il est arrivé, qui est aujourd'hui de moins 21. Donc on peut pas vraiment dire que ce soit un franc succès,
non.
Mais c'est jamais bon de voir Claudio Ranieri se faire virer, quoi.
Alors hier, il y avait un match qu'on attendait beaucoup. C'était le match entre Chelsea et Tottenham. Et on attendait de savoir ce qui allait arriver à Kepa. Et ben Kepa, il a pas joué.
Ouais, Kepa, il a pas joué, effectivement. C'était la grande décision. Tout le monde attendait avec impatience les feuilles de match avant la rencontre. On essayait d'avoir un petit peu des infos de l'intérieur pour savoir est-ce qu'il allait jouer, est-ce qu'il allait pas jouer, est-ce qu'il allait s'asseoir sur le banc. Finalement, il s'est assis sur le banc. C'était sûrement la meilleure décision de la part de Sarri. On en avait beaucoup parlé dans l'émission. Il fallait qu'il réaffirme son autorité sur ce groupe, sur ce vestiaire après l'embrouille avec Kepa qui avait refusé de sortir lors de la finale de la Coupe de la Ligue dimanche contre Manchester City. Sincèrement, je voyais pas d'autres solutions, d'autres options pour Sarri que de faire ça. Kepa a fait la gueule tout le match. On le voyait sur le banc à chaque fois qu'il y avait un gros plan sur le banc de touche ou sur Sarri. Derrière, il y avait Kepa qui tirait une gueule de 3 mètres de long, mais voilà, il a fait une énorme erreur, il paye pour cette erreur, il a été sanctionné financièrement d'une semaine de salaire, ce qui représente environ pour lui 215 000 euros.
Ouais, quand même,
et puis sportivement aussi, c'est une grosse sanction de rater cette rencontre. On ne sait pas vraiment s'il reviendra ce week-end pour le derby contre Fulham ou la semaine prochaine en Ligue Europe, mais voilà, c'était la meilleure décision à prendre, je pense.
Vu son attitude hier, tu le disais, je pense qu'il a déjà du mal à comprendre la décision de Sarri. S'il a du mal à la comprendre, peut-être qu'il va encore passer un peu de temps sur le banc pour qu'il la digère définitivement. Et ça me paraît logique dans tous les cas. Après, moi, je suis pas trop d'accord avec toi ou avec tout le monde là, qu'on ait dit. Il faut qu'il réaffirme son autorité. C'est pas parce qu'un joueur part en vrille, il fait une grosse connerie, que les autres d'un seul coup, ils vont dire, oh, bah, en fait, lui, il se permet de faire ça, donc moi, je vais le faire aussi. Non,
après, c'est plus non, mais il faut faire un exemple quand même.
Un exemple. Les autres joueurs, ils ont jamais fait ça. Ça arrive très rarement qu'un joueur refuse de sortir. Dans tous les cas, dans tous les clubs, le dernier exemple, je sais pas de quand ça date, mais t'es pas dans la tête des tout n'importe quel joueur peut péter un câble. Et c'est pas pour autant que d'un seul coup, vu qu'il pète un câble sur son entraîneur, que d'un seul coup son autorité est mise en doute, quoi. Tu vois.
Mais pour aller dans le sens de Jérôme, ah c'est pas quand même souvent qu'un gardien doit sortir comme ça. En gros, il a essayé de faire une Van Gaal, ça rime, mais bon, ça a pas marché. Hein.
Ouais. Ouais, ça a pas trop marché.
Non, mais après, si tu laisses passer ça aussi, tu vois, tu sais pas.
Mais il
aurait
pas laissé passer ça de toute façon.
Si tu te rends compte là les images devant les caméras et tout,
c'est une humiliation pour Chelsea, hein. C'est pour Sarri, c'est une humiliation pour Chelsea. Et
si tu le sens sur le coup financièrement, encore le mec qui garde son calme, il fait rien, il se passe rien, le coach. Il dit ok, on en parlera après. Bah attends, mais là,
c'est normal que l'entraîneur agisse comme ça. Je suis pas en train de te dire, mais par contre le joueur, c'est lui l'image, c'est pas l'image de Chelsea, c'est son image. Le joueur là, la preuve, il a payé sportivement, financièrement et aussi sportivement. Alors, et je pense qu'il va encore le payer quelques semaines, tu verras.
Julien, un mot sur Tottenham également, qui restait sur une défaite face à Burnley, qui la perd maintenant face à Chelsea. Ça y est, le titre, c'est mort là pour les Spurs.
Ouais, le titre c'est mort, c'est sûr. Ils sont,
Franchement, ouais, on sait jamais.
Ils sont à 9 points de Liverpool. Non, mais s'ils avaient gagné contre Burnley, par exemple, ils seraient revenus à 2 points de Manchester City. Ouais. Les deux défaites là font très très mal. Ils ont été méconnaissables hier à Chelsea. C'est le premier match depuis décembre.
Faire gaffe, elle va se faire rattraper par le voisin.
Ouais, c'est ça. Parce qu'ils
vont jouer Arsenal samedi. Voilà, ils sont à 4 points.
Arsenal revient à 1 point.
Arsenal, ils vont à City, ils vont à Liverpool aussi. Donc, ça va pas être simple.
Mes premiers matchs hier depuis décembre 2013 sans tir cadré pour Tottenham. Donc avant même l'arrivée de Mauricio Pochettino, c'était jamais arrivé sous Pochettino qu'ils aient un match pareil sans aucun tir cadré. Et c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal hier dans la créativité, mais même dans l'agressivité, j'ai trouvé dans les duels. Même si Pochettino essayait de justifier un peu la performance de l'équipe après la rencontre en disant oui, mais Chelsea n'ont pas fait beaucoup plus de choses que nous. Ils ont eu un tir cadré, ils marquent deux buts. Bon, le deuxième but effectivement la grosse erreur entre Trippier et Lloris, mais voilà, je trouve que c'est vraiment pas suffisant pour une équipe comme Tottenham.
Mais le plat du pied de Trippier,
il est pas mal. La tête baissée en plus.
Franchement, il aimait bien.
Alors que tu vois sur les images que Lloris lui parle. Hein, tu vois sur les images que Lloris, il a peut-être dû crier plus fort.
Il y en a aujourd'hui qui ont quand même dit que bon, la faute elle est partagée. Non, mais quelle faute elle est partagée? Lloris, il est pas responsable sur ce coup-là quand même.
Il va jamais remettre un ballon dans l'axe.
Déjà, jamais dans l'axe, jamais cadré. Tu le mets à côté du but, au pire, mais jamais comme ça. Le défenseur, c'est lui qui est entièrement responsable.
Donne-nous des nouvelles de Manchester United, alors qu'il va affronter le PSG la semaine prochaine, Julien, alors qu'il s'est imposé 3-1 à Palace. Hein.
Ouais, j'ai trouvé que c'était une victoire pleine de maturité, en contrôle. C'est pas facile d'aller à Crystal Palace et je trouve qu'ils ont vraiment bien géré cette rencontre, surtout avec toutes les blessures et les absents pour ce match. Ça va leur redonner la confiance, ça c'est sûr. Une dynamique positive aussi après le match nul contre Liverpool où ils avaient beaucoup dû défendre. On était au match avec Jérôme, on s'est bien fait chier pour dire la vérité, et c'est vrai qu'avec toutes les catombes de blessures en plus, c'était une sale journée dimanche, hein, faut le reconnaître pour Manchester United, et même s'ils avaient pris un point, c'était quand même pas génial. Et c'est vrai que cette victoire hier, ça va leur redonner un petit peu d'élan, un peu le sourire aussi. T'as un mec comme Martial par exemple qui revient à l'entraînement et qui sera peut-être prêt pour le match du PSG. Mais ils savent quand même que ce sera mission quasi impossible pour aller au parc et pour remonter le déficit du match aller.
Trop compliqué pour eux.
Ouais, ça va être chaud quand même. Hein.
Trop compliqué, trop d'absence.
Oui, mais au-delà de savoir si c'est trop compliqué ou pas, quel est selon toi l'état d'esprit global du club? Est-ce qu'ils sont dans un état d'esprit peu importe, on est Manchester, on y va pour le faire, ou est-ce que tu sens qu'il y a d'autres priorités, qu'il n'y a pas une véritable mobilisation en vue de cet objectif?
Moi je sens qu'ils y vont un peu sans illusion, quoi. Qu'ils y vont en sachant que le PSG était tellement fort à l'aller, quand eux avaient tous leurs joueurs disponibles quasiment, quoi, même s'ils ont perdu Lingard et Martial assez tôt, que là,
même quand ils sont difficiles à faire, il faut au moins avoir l'envie de le faire. Ouais. Il faut arriver une idée.
Et surtout, pour finir, parce que ça va illustrer sûrement ton point, c'est que 4 jours plus tard, ils ont le match contre Arsenal en championnat. Et sans aucun doute, il n'y a même pas
de... dans l'objectif le, 4 places, 4ème place.
La, voilà, le match le plus important de la semaine, c'est pas celui du PSG au Parc, c'est celui à l'Emirates contre Arsenal le dimanche suivant, le dimanche 10. Sans eux, il y a même pas de débat là-dessus. S'il y a un match qui vaut plus que l'autre pour eux, c'est celui-là, pas celui du PSG.
Mais ils sont résignés de toute façon. Moi, ce qui m'a choqué en arrivant en dimanche pour commenter le derby d'Angleterre là, contre Liverpool, c'est d'entendre et de que ça soit les gens qui travaillent dans le club.
Je suis pas sûr qu'on dise derby d'Angleterre. Je sais pas pourquoi
ça se dit pas trop. Ouais, alors c'est une expression qui a été. C'est une expression commerciale. Et ça se dit pas trop là-bas.
C'est pas trop. C'est pas tellement.
Un petit peu quand même.
Un petit peu, merci.
Pas trop.
Merci, Julien.
Ouais, mais un petit
merci
peu.
Quand même. Oui, mais un petit peu, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est pas grave.
Bah, ils se contentent
du petit
peu.
Et tout ça pour
te dire. On à chaque fois la même chose.
Tout ça pour te dire que, t'entends les discours, ouais, Paris était trop fort. Et quand t'abordes le match comme ça, c'est que tu penses pas faire le...
Non, mais enfin, résigner, c'est que c'est 2-0, c'est pas non plus le 4-0 du Barça.
Ça veut dire
qu'ils en ont peut-être pris plein la gueule, justement.
Oui, sauf que le Barça démarre avec l'idée qu'ils peuvent le faire, c'est pour ça que c'est toujours...
La dynamique de groupe avec toutes les blessures, je peux te dire que ça c'est un coup aussi derrière.
Mais là, en première ligue, en tout cas, Julien, en première ligue, c'est un moment un petit peu charnière parce que autant pour Manchester, tu disais, eux, ils ont toujours l'espoir d'accrocher la zone Ligue des Champions et ils ont ce match important la semaine prochaine contre Arsenal. Indirectement, allié à ça, t'as Tottenham qui va moins bien. T'as Arsenal qui se remet vraiment à y croire et qui est à fond dedans et qui, pour le coup, en battant Tottenham puis Manchester United dans 8 jours là pourrait s'installer complètement Arsenal. Dans la zone Ligue des Champions ouais, Arsenal
ouais bon écoute
en gagnant ces deux
matchs t'as vu Tottenham en ce moment Jérôme
que Arsenal bat City alors franchement j'attends
non mais Tottenham
bat City c'est pas dit City
United après ils vont jouer
United. Ou j'ai mal compris alors.
Non, c'est United.
Mais Arsenal en gagnant contre Tottenham là battant Manchester United, c'est pourrait s'installer. Donc en fait, la zone est assez ouverte parce qu'entre Chelsea qui a l'air à la rue et puis qui revient à Tottenham qui va pas bien du tout, Manchester, la zone.
Pour commenter les matchs tous les week-ends avec Jérôme sur RMC Sport. De toute façon, la première ligue c'est très serré et il va y avoir du suspense jusqu'au bout.
Putain, on termine là-dessus.
Ouais, mais autant 1-2,
on l'a fait venir pour ta belle phrase de tout à l'heure.
Non, mais je pense que l'important, c'est les 3 points. Donc, à partir de là, si Arsenal.
En tout cas, je suis content parce que ce soir, on a mis les ingrédients, les mecs. On a fait une bonne émission.
Merci. On avait surtout à cœur de faire une bonne émission.
Messieurs,
bonnes vacances!
Bonnes vacances. Enfin, pour toi, ouais.
Tu vas où? En Repdom.
Ah ok. C'est pas trop.
C'est très.
Non mais c'est bien. Mais bon, toi.
Merci Jérôme, merci Anthony, merci Kevin, merci Julien, merci Daniel. Bonne vacances à demain. Merci Jérôme, Thomas.
Oui, c'est pas au club net quoi.
Non, voilà.
D'accord.
RMC Football Show. L'After Foot.